Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Excellent Père de gloire, merci pour ce moment que nous allons encore passer ensemble avec ta faveur et ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la vie de chacun de nous. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu nous donnes la grâce d'être en communion avec toi, de marcher avec toi, de plaire à Dieu grâce à toi, d'être transformé, d'être renouvelé par toi, de gloire à gloire en Jésus-Christ. Amen.
Alors on y va, en commençant par les anciens. Eux, ils n'ont pas de raison d'être timides, les autres nous suivront. On y va?
Oui. Comment traverser les difficultés sans laisser des plumes? Qu'on entend par laisser des plumes, mais brûler quoi? Qu'est-ce qu'on veut entendre par là quand, lorsqu'on traverse le feu?
Donc, laisser des plumes, c'est quoi? C'est ça? Oui. Ou brûler? D'accord. Oui.
Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment traverser le feu sans être brûlé?
Oui. Ensuite?
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on gère le stress lorsque les difficultés surviennent?
Gestion du stress lorsque...
problèmes surviennent. La gestion de la difficulté aussi.
Gestion des difficultés, vous avez dit psychologique? D'accord. Les attentes, des observations, des questions par rapport au thème. Allons-y.
Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir le vrai sens. Comment est le vrai sens de ce qu'on appelle marcher dans le feu?
Comme lui?
Oui.
Ou alors, lui, c'est quoi? C'est brûler, toi, c'est marcher dans le feu. Ok, on peut mettre tout ça ensemble. Quoi d'autre?
Aussi, la dernière fois, on a dit qu'il y a différentes sortes de problèmes. Mm-hmm. Il y a certains que l'on rencontre parce qu'on n'obéit pas à Dieu, aux règles. Il y a d'autres que Dieu nous envoie pour nous faire grandir, pour nous fortifier.
D'autres que Dieu laisse passer.
Laisse passer.
La Bible a été claire, Dieu n'envoie des problèmes à personne. Il ne tente personne parce qu'il ne peut être tenté par le mal. C'est écrit noir sur blanc. Allez, il faut toujours faire attention à ne jamais dire ce qu'on pense, mais à toujours dire ce qui est. Donc, c'est des petits détails, mais ça, c'est déjà contredit la parole. Donc, on revient sur la parole. Oui.
D'accord. Donc, dans ce cas, comment les reconnaître et comment les surmonter?
Comment reconnaître, disons, la source des problèmes, en supposant il y a Dieu, il y a épreuve, il y a péché. Bon, comment les surmonter, c'est déjà un peu dans les autres questions. D'accord. D'autres questions?
Bonsoir. Moi, je vais prendre un exemple typique du chômage. Tu finis tes études et puis tu n'arrives pas à trouver un boulot tout de suite. Comment tu peux gérer ce temps que tu passes sans avoir un travail à faire quoi, après l'université?
C'est la première fois que vous venez ici, c'est
oui.
ça?
Oui, c'est la première fois.
D'accord, ça se comprend. Parce que ça, c'est l'alphabet du club Jésus pour ici. Alors, comment surmonter les difficultés liées au chômage, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord, on continue?
Moi, je vais peut-être aller à l'inverse de ce qu'elle dit. Comment faire quand vous avez beaucoup de choses à faire et elles semblent toutes urgentes? Et quand vous n'avez pas fini, il y a d'autres encore qui surviennent et vous devez les régler.
D'accord. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire, et il y a d'autres qui en ont trop à faire. Et ils sont assis côte à côte. Comme quoi, Dieu a toujours réglé tous les problèmes, c'est les hommes qui ne voient pas. Quand quelqu'un est trop occupé, assis à côté de quelqu'un qui n'a rien à faire, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Il suffirait de faire comme les Français, donne-lui un peu de ton travail. Oui, on continue, d'autres questions?
Traverser les difficultés sans y laisser des plumes, c'est-à-dire marcher dans le feu sensible, de brûler, est-ce que c'est sortir de ces difficultés en restant le même? On sort des difficultés en restant la même personne?
Donc, on peut dire...
Ne pas changer du tout?
Alors, peut-on sortir et changer des difficultés, c'est ça?
Oui, peut-on sortir et changer.
D'accord, oui. Alors, on peut aller ou il y a encore des questions, des attentes? Alors, on va peut-être commencer par là. Marcher dans le feu, c'est quoi? Si brûler, c'est quoi? J'avoue que je n'ai pas beaucoup réfléchi au thème. Il m'a été inspiré comme ça quand je planifiais les séminaires du mois. Et comme toujours, je l'ai écrit, je me suis dit, on verra après. Si le Saint-Esprit me l'inspire, c'est qu'il doit bien vouloir qu'on dise quelque chose. Jusqu'à là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut qu'on dise dessus. Mais le thème est là, on va bien voir. Ce qui est sûr, c'est que dans le langage de tous les jours, vous verrez plein de gens dire que les temps sont durs, que les temps sont chauds, que tout est sec, qu'il y a le feu. Sous différentes formes, même le langage mondain contemporain reconnaît que le monde est en feu et que ça chauffe. D'une manière ou de l'autre, quand on dit ça chauffe par exemple, ça vient du feu. Quand on dit que c'est sec, qu'est-ce qui assèche les choses? C'est le feu. Quand on dit que les temps sont durs, tout ça c'est la même idée. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, on voit bien qu'il y a le feu actuellement. Première chose. Deuxième chose, j'ai toujours lu dans la Bible, et les chrétiens bien, surtout les chrétiens évangéliques aiment bien, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Tu seras sur les eaux, ils ne te donneront pas. Alors, tout le monde récite ça tout le temps, et puis quand, surtout quand on dit ça, les gens disent Alléluia, et puis ils seraient très contents, ils sont tous en train de s'agiter. Alors, c'est bien beau, mais il faut de temps en temps s'arrêter pour se demander qu'est-ce qu'on est en train de dire. Quand on dit que vous marchez dans le feu, vous ne serez pas brûlé, bon, peut-être que si vous avez la foi un peu comme les Indiens, on peut mettre du charbon ardent, ou bien du feu, vous allez mettre le pied dedans, et puis vous ne serez pas brûlé. C'est possible, mais je suis sûr à 100% que ce n'est pas de ça que la Bible parlait. Et beaucoup de gens n'ont pas vu le lien. Quand ils disent tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, les gens s'imaginent que les premiers qu'on envoie pour dissuader, pour briser toute résistance, c'est eux. Plus vous êtes militairement brillant, plus à chaque soubresaut, on va vous appeler pour vous envoyer au front. Mais les militaires que je vois là, les gendarmes que je vois avec gros ventre, beden là, certains d'entre eux ne combattront jamais avant de mourir. Parce qu'ils sont tellement mauvais qu'on ne les envoie à la guerre que quand on a déjà épuisé tous les recours possibles et que tous ceux qui savent combattre sont déjà épuisés ou bien ils ne sont pas suffisants. Bon, on prend les soldats Dormidor. Maintenant, quand les soldats Dormidor sont épuisés, c'est un peu comme par exemple en Israël, dans les pays qui sont tout le temps en guerre, il y a ce qu'on appelle les soldats réservistes, les gens qui ont fait le service militaire d'abord. Et puis après, quand les gens qui ont fait le service militaire suivent, puis on peut prendre n'importe quel homme, âgé de 18 ans, parfois même on descend. Regardez, dans les pays en guerre, on descend même parfois jusqu'aux enfants. C'est-à-dire qu'on va des plus performants, au moins performants, tombant parfois même jusque sur des enfants, parce qu'on a besoin de combattants. Mais avant d'en arriver à utiliser des enfants pour combattre, c'est qu'on a fini avec les GNGN, les commandos, les GIS, on a fini avec tout ça là depuis longtemps. Ce que je veux vous dire, c'est que le niveau de combat, la quantité de combat dans laquelle un soldat performant est engagé est 1000 fois plus importante que la quantité de combat dans laquelle est impliqué un soldat moyen. Vous me suivez? Et donc, si vous êtes un géant de la foi, vous êtes un grand ami de Dieu, oui, vous allez être le plus béni au ciel. Et même sur la terre, vous êtes généralement plus béni que les autres. Un général, il a plein de médailles, il a plein de millions, il a tous les honneurs, il a toutes les faveurs, mais il reste dans sa maison combien de temps pour en jouir? Tu arrives, on te sert les milliards que tu as gagnés en prime, mais en même temps, regardez les gars qui vont dans les missions onusiennes. Ils n'ont pas le temps d'en jouer. Et quand on ramène leur cercueil, on pleure pour eux, mais il a peut-être amassé pour sa famille. Le soldat passe son temps à combattre, il amasse les bénédictions, mais il n'a pas beaucoup de temps pour se pavaner ou pour s'endormir sur ses lauriers. Parce que le temps de recevoir les honneurs d'une guerre, on l'a déjà sollicité pour une autre. On va l'équiper, c'est certain. On va l'outiller, c'est certain. On va le payer, c'est certain. Mais il vit tout le temps dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est normal. Si vous êtes un général, vous avez un problème, qui vous active le premier? Vos meilleurs combattants ou vos plus... Les plus fainéants, les meilleurs. Donc, paradoxalement, plus Dieu vous aime, plus vous allez combattre. Mais combattre pour Dieu, c'est quoi? C'est être dans des situations pour mettre Satan en difficulté. C'est être dans des situations où vous pouvez porter des coups mortels à Satan. Comment Dieu porte des coups à Satan? Dans la guerre du bien et du mal. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui ridiculise Satan, qui affaiblit Satan, qui humilie Satan, qui fait gagner l'amour sur la haine, qui fait gagner la vie sur la mort, qui fait gagner la santé sur la maladie, qui fait gagner l'honnêteté sur le vol. Il est en train d'attaquer Satan au profit de Dieu. Dieu a donc besoin de gens qui vont perpétuellement dans tous les domaines attaquer Satan et qui vont se retrouver en combat avec Satan parce que pendant que vous attaquez Satan, lui ne dort pas non plus. Donc votre vie est un champ de bataille entre Dieu et le diable. Vos pensées sont un champ de bataille entre Dieu et le diable. Toutes vos actions, vous allez voir quand on hésite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que vous êtes tiraillé d'un côté par Dieu, de l'autre côté par le diable. La question, c'est qui gagne? Ça ne tient qu'à vous de contribuer à la victoire de Dieu. Si vous tenez ferme, mais vous ne pouvez pas être un combattant entre deux géants comme Dieu et le diable et espérer que vous allez dormir dans un lit douillet toute votre vie. Comme l'a dit David, vous vous reposerez dans de verts pâturages. Vous allez rentrer dans le repos, dans la paix de Dieu. Mais vous allez combattre. C'est inévitable. Donc, le bonheur. C'est pour ça que je dis, je vous donne la paix. Pas comme le donne le monde. La paix du monde, on négocie un accord, il n'y a pas de combat là. Jésus a dit, lui ne vous a jamais promis ça. Il a dit, hein, quand on dit à l'église, là, on dit, je vous donne la paix du Christ. Et il a dit dans l'évangile, pas la paix comme le donne le monde. Jésus ne vous a jamais promis la paix. Ah bon, c'est fini, pendant les 10 prochaines années, Dieu m'a exaucé, je n'aurai plus de problème. Ça, là, ça ne peut pas être Dieu. Parce qu'il a dit, vous aurez des persécutions. C'est une affirmation, ou bien c'est pas français, il a parlé. Ou bien, c'est ça qu'il a dit, non? Vous aurez des persécutions. Vous aurez des tribulations. S'ils ont persécuté le maître, et c'est vrai, pourquoi ne vous persécuteront-ils pas? Tout ça est quand même logique, il me semble. Il va plus loin, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. La croix, c'est quoi? C'est des problèmes. La croix, c'est quoi? C'est des problèmes. Donc, Jésus vous affirme, Dieu vous garantit que vous aurez des problèmes. La grande question, c'est comment vous faites dans les problèmes. Quand un soldat américain affronte un soldat arabe, la question n'est pas de voir on peut éviter le combat. On ne peut pas éviter le combat, on ne l'évitera jamais. La question, c'est est-ce que le dieu américain fait honneur aux États-Unis dans ce combat ou est-ce qu'il se fait humilier? Et je vous donne des exemples très concrets pour vous comprendre ce qui énerve Dieu. Imaginez qu'un Palestinien ou bien un gars d'Al-Qaïda fait prisonnier comme ça arrive un soldat américain. Juste là, il n'y a pas encore de problème. Les Américains disent ça, c'est petite affaire. On sait comment aller chercher notre gars, c'est une question de minutes. Nous allons envoyer des hélicoptères, nous allons envoyer des commandos. Bref, nous savons que nous allons le récupérer. Et ils envoient un message à leurs soldats. Ne parle pas, ne t'humilie pas, ne fais aucune révélation. Nous venons te chercher. Évidemment, le soldat est libre de croire à son armée ou de ne pas le croire. Imaginez que ce soldat-là est tellement peureux qu'en dépit de toute la puissance de son armée et de toutes les garanties que le président américain, même l'appelle au téléphone, puis dit, n'aie pas peur mon gars, je m'occupe de toi, on vient te chercher. Il se met à genoux et puis il permet aux Arabes de le filmer en train de demander pardon. Les Américains sont désolés, nous vous demandons pardon, ne nous tuez pas, sauvez-moi, ne me tuez pas. Et on passe ça sur les télés dans le monde entier. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûr que les renseignements américains vont demander qu'on le tue. Parce qu'il n'y a pas plus grande insulte aux États-Unis que d'avoir un soldat américain qui va se comporter comme un peureux, comme le soldat d'une armée faible en se soumettant à une armée qui est censée ne même pas arriver à la cheville des Américains. Et ça, pas parce qu'on l'a abandonné, mais parce qu'il est tellement pressé qu'il ne laisse pas aux Américains le plaisir de faire une opération tempête, disons un truc comme ça, démontrer qu'ils sont les puissants et venir le sortir. Eux, ils auraient bien voulu profiter de ça pour faire une démonstration de force. Pendant qu'ils sont en train de mobiliser les chars, les bombardiers, les hélicoptères, le renseignement, cet imbécile-là se met à genoux. Il confesse Allah, il renie Jésus, il dit tout ça, pour peu qu'il ait la vie sauve. Si vous êtes un Américain, vous faites quoi? Ils vont envoyer rapidement des commandos le buter. Et si jamais il revient aux États-Unis, ils vont le passer à la cour martiale. On appelle ça de la haute trahison. C'est comme quand il y avait Hitler qui envahit l'Europe. Il y a des gens qui ont résisté, mais il y a des gens qui se sont sabordés facilement à l'envahisseur. Mais quand la guerre s'est terminée, les dressus et consorts, on les a jugés pour haute trahison. Le problème, c'est que chaque fois que face aux difficultés, vous pleurez, vous capitulez, vous êtes obligé d'aller voir un féticheur, d'aller voir quelqu'un qui a un tila, d'aller voir quelqu'un qui a une bague magique, bague des aliens, bague de Satan, bague rouge, chapelet noir. Chaque fois que vous cédez à la tentation d'une idolâtrie, d'une puissance venue de n'importe où, pour régler vos problèmes, au lieu de dire, moi je suis chrétien, en Jésus, je vous défie, on va jusqu'au bout. Vous faites exactement comme ce soldat américain. Et ça rend Jésus et Dieu furieux. Vous les humiliez. Et ça fait partie des choses que Jésus ne pardonnera à personne. Donc, si Dieu promet que nous marcherons dans le feu, il nous promet qu'on va naturellement nous retrouver dans une situation de tension. Regardez quel grand homme de Dieu vous avez vu dans la Bible avoir échappé au feu. Chacun d'entre eux a eu son lot. Abraham a eu son lot, Moïse a eu son lot, Josué a eu son lot, Jacob a eu son lot, Jésus a eu son lot, Salomon a eu son lot, David a eu son lot. Il est dans le naturel d'un homme d'avoir des difficultés, d'avoir le feu. Mais il y a des gens qui marchent sans se bouler, qui comme Abed et consorts s'y amusent quasiment, naguant Satan. Et quand c'est le cas, Dieu vient toujours les en sortir. Et puis il y a des gens qui dedans commencent à pleurer et qui soit sont tués par le feu, soit c'est Dieu même qui les tue parce qu'ils sont en train de l'humilier. Je dis toujours, quand vous voulez comprendre Dieu, là, mettez-vous de temps en temps à sa place. C'est quand on a demandé à Jésus le plus grand des commandements, il dit « aime ton prochain plus que tout ». Avant ça, il avait dit « aime Dieu plus que tout et ton prochain plutôt comme toi-même ». Quand vous mettez ces deux choses ensemble, le premier vrai commandement, c'est « aime Dieu au moins comme toi-même ». Et si vous aimez Dieu au moins comme vous-même, vous comprendrez comment c'est énervant de voir un de ses enfants s'humilier devant son ennemi. Vous comprenez comme c'est énervant de voir tes enfants. Donc, marcher dans le feu, nous venons de le voir, c'est connaître des difficultés. Certaines passablement dures, mais d'autres vraiment infernales, comme on le dit. Mais dans tous les cas, la question c'est de dire, le chrétien dans le feu ne se comporte pas comme un homme dans le feu. Il se rappelle que lui, il ne peut pas être brûlé. Et s'il ne peut pas être brûlé, ça change tout son comportement dans le feu. Il ne pleure pas, il ne s'endort pas, il ne capitule pas, il tient bon, il se reconnaît plus que jamais à son Dieu. Il attend patiemment que le feu s'éteigne et qu'il continue ce qu'il a à faire. Parce que lui sait que dans tous les cas, le feu ne peut que passer. Jésus dit, ou non, c'est plutôt dans l'Ancien Testament, dit que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. Tout est éphémère. Le feu est éphémère, il va finir de brûler. Donc, la question c'est comment traverser les difficultés, quelle que soit leur intensité, mais sans s'y brûler, sans y rester, sans y mourir, ou sans en sortir complètement brûlé, c'est-à-dire plus bon à rien. Et je réponds peut-être immédiatement là, peut-être à la question, est-ce possible de sortir du feu sans se brûler? Peut-on sortir et changer les difficultés? Il y a deux niveaux à cette question. Ça dépend d'abord de la nature du feu. Il y a des feux dont vous sortez sans être brûlé, sans être changé, sans rien du tout. Il y a des petites épreuves de tous les jours. Vous tenez bon simplement par la foi, vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose de compliqué, ça n'a pas besoin de transformer votre karaté ou quoi que ce soit, c'est des petites difficultés, vous les balayez par la foi. Il y a même des difficultés relativement importantes, mais que vous balayez par la foi sans que ça ne corresponde forcément à une épreuve pour vous transformer, pour vous éprouver ou quoi que ce soit. Et là, vous pouvez effectivement sortir de certains feux qui auraient tué d'autres personnes comme si de rien n'était. Ça, c'est certain, moi j'en vis tous les jours. Maintenant, il y a d'autres niveaux de difficultés qui, soit si vous n'avez pas de foi, comme dans le premier cas, si vous n'avez pas de foi, vous allez être brûlé, ça c'est clair. Mais quand vous avez de la foi, vous traversez ça comme si de rien n'était. On se demande même si vous êtes fou. Maintenant, il y a des niveaux de difficulté ou des conditions dans lesquelles, si vous avez de la foi, à défaut d'être brûlé comme tout le monde, ces épreuves sont conçues et acceptées par Dieu aussi pour vous transformer. Parce que l'une des vocations de Dieu, du Saint-Esprit, c'est de nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. C'est-à-dire de nous épurer, de détruire progressivement ce qui est mauvais en nous, de développer ce qui est bon en nous pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Vous ne devez jamais oublier que dès que vous donnez votre vie à Jésus, dès que vous êtes chrétien, vous rentrez dans un processus, dans une école où le Saint-Esprit a pour objectif de vous faire ressembler autant que faire se peut à Jésus. En pensée, en parole, en action et en omission, vous devez être conforme à Jésus. Vous devez être capable de penser comme Jésus pense, de parler comme Jésus parle, d'agir comme Jésus agit et de ne pas faire ce que Jésus ne faisait pas. Mais ce n'est pas que le Saint-Esprit va vous asseoir quelque part, va vous faire des dictées, à noter comme on le fait à l'école ou parfois même à l'université, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Dieu va utiliser beaucoup de cas pratiques de votre vie pour développer en vous un certain nombre de choses. Certaines épreuves, par exemple, si vous êtes quelqu'un de très impatient, Dieu va permettre que certaines choses arrivent pour briser votre impatience. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, de très orgueilleux, Dieu va permettre que certaines choses viennent briser votre orgueil. Je connais, par exemple, des gens qui étaient très orgueilleux. Quand Dieu essaie tout pour briser leur orgueil, que ça ne marche pas, Dieu permet qu'on les mette en prison. Quand ils sortent de la prison, même si au bout de 48 heures, ils sont plus orgueilleux. Et tu vas faire le malin sur qui? On t'a déjà enfermé. C'est pour vous donner un exemple. Vous me suivez? Donc, il y a des gens, des grands hommes, qui sont même devenus peut-être après président et consorts, mais ils ne le seraient jamais devenus si quelque part dans leur histoire, Dieu n'avait pas réglé le problème de leur orgueil, puisqu'on dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil et la défiance. Si quelqu'un veut, Dieu veut élever quelqu'un, la personne a trop d'orgueil, alors que Dieu sait que l'orgueil mène à l'échec, Dieu, pour s'assurer que la victoire qu'il lui donnera ne sera pas suivie d'un déclin, va régler le problème de l'orgueil s'il aime. Parfois, ça passe par la prison. Joseph a fait de la prison. Et vous allez voir que beaucoup de grands hommes, les Mandela et consorts, n'ont été au sommet qu'après avoir fait la prison. Ils en sortent très humbles et consorts. Je ne suis pas sûr que Mandela aurait le tempérament, la personnalité qu'on lui connaît sans 27 ans de prison. Vous croyez qu'on peut faire 27 ans de prison et sortir orgueilleux? Et non, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, certaines épreuves comme ça, vous ne pouvez pas en sortir comme si de rien n'était. Parce que le Saint-Esprit s'en sert pour vous reformater, comme il dit, l'argile entre les mains du potier, pour vous redessiner, pour briser des choses en vous, pour casser des choses en vous, pour vous révéler certaines choses, pour vous montrer certaines choses. Par exemple, si vous subitez certaines épreuves, la manière dont Dieu réagit dedans, la manière dont, de temps en temps, il vous sort des grands coups, ainsi de suite, c'est l'ensemble de ces choses-là qui développent la foi. Parce que quand on parle de foi, par exemple, la foi, ce n'est pas la théorie. Ou quand on parle, par exemple, d'écouter le Saint-Esprit, ce n'est pas la théorie. Moi, je peux dire, par exemple, qu'aujourd'hui, j'entends plus rapidement et plus clairement le Saint-Esprit que je le faisais il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 1 an et demi. Je te donne un exemple. Mon épouse et moi, par exemple, on rêve souvent. Elle rêve beaucoup, moi, pas beaucoup. Mais moi, j'ai tendance à mieux interpréter les rêves qu'elle. À la question pourquoi, vous allez voir, ça arrive à beaucoup de gens. Généralement, les gens qui rêvent beaucoup, qui ont beaucoup de révélations, sont de très mauvais interprètes des révélations. Ceux qui n'en ont pas beaucoup et qui sont connectés au Saint-Esprit sont de bons interprètes. Il y a des gens qui ont les deux. Il peut arriver que ponctuellement, on ait les deux. Mais si vous regardez bien, il y a toujours une tendance dominante. Pourquoi? Dieu ne veut rendre personne indépendant. Il dit, quand deux d'entre vous êtes réunis, je suis là. Pourquoi il ne dit pas, si vous m'appelez, je suis là? Dieu aime bien que les gens soient en paire. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vous allez voir que dans tout ce que Dieu fait, il se débrouille pour que personne ne puisse se suffire à lui-même. Or, nous avons tous tendance à chercher des situations dans lesquelles on aura besoin de personne. Et une grande partie de notre malheur dans ce monde vient du fait que c'est impossible. C'est exactement le contraire de la volonté de votre Père. Voilà. Donc, je disais, dans toute la création, vous allez par exemple voir aucune espèce qui peut se reproduire, en tout cas c'est très rare, toute seule, sans qu'il y ait un mâle et une femelle. Tout dans la vie est toujours une question de complémentarité. Dieu aime bien ne jamais concentrer l'autonomie, l'absolu en une chose. Je ne sais pas pourquoi, mais on dit enfant que c'est le fait de ne pas connaître quelqu'un qui fait qu'on le trouve méchant. Si vous voulez comprendre le monde, prenez parfois le temps de comprendre la personnalité de Dieu. C'est un peu comme un film. Quand tu as regardé 10 films de Steven Seagal, tu peux définir sa personnalité. Quand tu as regardé beaucoup de films de Jackie Chan, tu peux décrire la personnalité de Jackie Chan. C'est-à-dire, tu sais qu'est-ce que Jackie Chan peut faire et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. Parce que tu commences à voir comment il fonctionne. Vous devez arriver à ce niveau-là avec Dieu. Ou, moi, on peut me dire, Dieu a dit tel. Je dis, c'est impossible, ça ne lui ressemble pas. Sans savoir, hein. Mais généralement, quand je fouille, j'arrive à la preuve que c'est impossible. Parce que je commence à le connaître. Il y a des choses qu'on va me dire, comme on dit, je peux dire à sa place que c'est faux, il ne peut pas dire ça. Ce n'est pas une question de magie. Mais quand tu connais quelqu'un, tu sais comment il fonctionne. Dieu ne va jamais rendre quelqu'un capable de faire des choses extraordinaires tout seul. Sinon, il s'enorgueillera. C'est un peu comme Paul. Il dit, j'ai un problème. Un ange de Satan qui me soufflette, qui me ralentit, qui me paralyse. J'ai prié Dieu de m'en débarrasser. Dieu dit non. Il est là pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Ma grâce te suffit. Hey, je m'occupe que tu t'en sortes. Mais ne te soucie pas de pouvoir t'en sortir seul. Ce n'est pas ton problème. Même Jésus, en allant à la croix, là, faites remarquer que Jésus, Dieu s'est débrouillé pour que quelqu'un vienne l'aider à porter sa croix. Il n'a pas porté ça tout seul. Vous n'avez pas remarqué ça? Quelqu'un a aidé Jésus à porter sa croix. Et ils sont même nombreux. Mais vous ne pouvez jamais rien faire tout seul. Dieu lui-même, il a le boulot des anges. Il a le boulot de Jésus. Il a le boulot du Saint-Esprit. Il a le boulot des chrétiens. Il a du boulot même qu'il a donné au diable. Si le diable n'avait pas crucifié Jésus, Jésus va se réveiller après avoir pris les clés du tombeau. Les gens oublient. Si le diable ne coopère pas avec Dieu, malgré lui, comment Dieu va gagner? Quelqu'un dit que si Satan savait, c'est-à-dire Dieu, c'est comme si c'était un jeu d'échecs. Dieu joue plusieurs coups d'avance. Là où Satan pense avoir gagné, il n'est en train que de construire la victoire de Dieu. Satan permet qu'on vende Joseph, il se dit, youpi, j'ai gagné. Il ne sait pas que c'est maintenant qu'il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Et c'est comme ça que dans la vie, ceux qui vous persécutent, vous pleurez là. Arrêtez de leur en vouloir. Ils sont en train de vous servir. Si par exemple quelqu'un est un concurrent, on ne peut pas faire un meilleur cadeau à un opérateur économique que des concurrents. Parce qu'on a tendance à dormir. Mais quand tu vois un concurrent, en tout cas, moi, c'est là où tu es bien content. Parce que tu es obligé de te réveiller, de prouver que tu es le meilleur. Et c'est là qu'ils ont chaud. Donc s'ils n'existaient pas, tu ne peux pas être bon. Donc les épreuves, les difficultés sont pénibles. C'est comme la vaccination, quand on pique un enfant, ça fait mal. Mais c'est ça qui le rend plus fort que la maladie. L'un des grands problèmes de l'homme, c'est d'espérer qu'il n'y ait pas d'épreuves ou de problèmes pour être heureux. Et comme ça n'arrivera jamais, vous ne serez jamais heureux. Écoutez, je vais vous expliquer ceci. Si je prends là les attentes, et là, je prends là le résultat. Ça, c'est l'axe dans la vie, par exemple, de l'attente et des résultats. Si j'attends quelque chose de niveau 10 et vous me donnez un résultat de 7, je suis fâché de 3. Parce qu'en réalité, j'ai eu moins que ce que je voulais. Si j'attends 10 et que vous me donnez un résultat de 12, je suis très content parce que j'ai eu plus que je voulais. Si j'attends 10 et que vous me donnez 10, cela ne me fait ni chaud ni froid. Je vous l'illustre mieux. Si tu es tranquille, je te promets 1000 francs. Et après, je viens dire, bon, finalement, je n'ai pas eu 1000 francs. Prends 200 francs, tu te fâches. Tu ne vas pas me dire que tu es fâché, hein, mais tu vas te fâcher. Parce que tu auras déjà fait plein de programmes sur les 1000 francs que j'ai promis.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi, tandis que la solution existe ?